Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Pendant que la dame prend sa journée pour, dans Paris, musarder, ben nous, on va pas avoir trop le temps de niaiser. 8 journées, 5 de jouer, plus que 3 matchs pour espérer. Que faut-il retenir des 2 derniers jours en Champions? Une nouvelle formule partie pour être bien plus emballante et surprenante que beaucoup ne l'imaginaient. Non, monsieur Moati, bonjour.
Bonjour, oui, tout à fait. Je reconnais très honnêtement que quand j'ai vu sortir cette formule de la Ligue des Champions, j'ai écrit beaucoup de mal dessus et petit à petit on m'a expliqué que ça serait sûrement mieux que je l'imaginais. Bah, finalement ils avaient raison.
Bah alors je vous rejoins là-dedans. J'ai pourfendu moi aussi et finalement je trouve ça plutôt pas mal. Focus évidemment sur Liverpool-Real, la meilleure équipe d'Europe, voire du monde du moment, à sa main face à celle qui le fut sur le toit du monde à un moment il n'y a pas si longtemps. Flamboyant Reds, pathétique merengue, Salim Bongali. Vous y étiez dans ce Anfield enchanté. Ne mentez pas, on vous a vu à la télé. Oui, oui, il y a des plans, on a des témoignages.
Bonjour, bonsoir Olivier. Effectivement, j'ai eu la chance d'y être et de voir une équipe sur le terrain, pas deux.
Vous avez donc constaté le naufrage de Mbappé. Au-delà de son pénalty raté, rien ne va plus. Kiki déboussolé par un gosse nord-irlandais de 21 ans, comme un perdreau de l'année. Manu Terradillo, ça va? Pas trop mal à la tête ce matin?
Non, ça va. Buenas tardes, bonjour à tout le monde. On va dire, on attendait qu'il améliorait, on attendait aussi qu'il peut-être il allait faire pire. Bon, finalement, c'était catastrophique.
Donc, voilà. J'aime bien que ce soit vous qui le disiez. Bon, et les clubs français dans tout ça, not too bad, pas si mal. 3 dans les 12 premiers et de fait pratiquement qualifiés. Monaco, Brest et Lille, loin, très loin devant le PSG. Justement, tiens, à 3 journées de la fin, qui verra le printemps européen? Qui le regardera à la télé? Petite projection, même si l'on a compris que jusqu'à la fin, pour beaucoup, il faudra lutter, suspense garanti. Alors, on dit quoi dans la dernière partie, une fois qu'on aura parlé de la Ligue des Champions? Eh bien, qu'on parle beaucoup des cadences infernales pour les joueurs, mais quid des entraîneurs, de cette charge mentale énorme qu'ils doivent gérer, encaisser, au point de se faire mal, même quand on est le meilleur. Pep Guardiola, plaie sur le nez, front griffé, pour 6 matchs, pas gagné. Bonsoir Philippe Doucet. C'était plus cool avant ou c'est pas nouveau le fait qu'on s'intéresse à cette charge mentale des entraîneurs?
Ah, je suis pas sûr qu'on s'intéresse beaucoup à ça. Je trouve qu'on s'intéresse beaucoup à la date à laquelle ils vont être virés. Ça passionne absolument les journalistes. Les griffures, oui, les griffures, ça a passionné sur un soir, mais je crois que ça...
Mais est-ce que ça ne traduit pas, on verra ça en fin d'émission, une pression aussi chez eux plus importante?
Oui, bien évidemment. Oui. Non, mais ça, il est évident que le sport professionnel d'aujourd'hui fait du mal.
Je conseille à Philippe la lecture d'un excellent interview de Francaise dans l'équipe.
Oui.
Il évoque
tout à fait,
assez largement ce problème-là. Donc les journalistes s'y intéressent.
Il y en a un qui s'en occupait. Bravo l'équipe.
Bah, les débats sont lancés. Allez, salut Diouf a fini de rigoler. Laurent Salerno est prêt à manipuler. Radio Foot, faut y aller.
Et le pénalty sifflé par François Le Texier. Mbappé pour égaliser.
Marseille à la media luna, coge Carrera, Kylian Mbappé, amaga de uno, amaga de dos, la paró. No me lo creo.
Et Keller qui repousse ce ballon. Rien ne tourne rond pour Kylian Mbappé.
Un terrible de Mbappé.
Pénalty, la faute de Fernand Mendy sur Mohamed Salah face à Courtois. Et Salah qui tire à côté. C'est la malédiction.
That was not the one I expected.
Tony Gakpo qui prend Thibaut Courtois, personne.
Liverpool are 2 up. It's a gift.
Les irrésistibles Reds qui terrassent les Merengues. Liverpool était trop fort, beaucoup trop fort pour cette équipe du Real Madrid. 5 victoires en 5 matchs.
They are top of the Champions League.
Trop fort, beaucoup trop fort Liverpool. Tous ceux qui ont suivi cette rencontre ne peuvent être que d'accord. On aurait aimé vous dire what a game, quel match. Eh ben non, même pas, parce que pour faire un bon match, Salim Gongali, il faut...
Deux équipes, c'est mieux, effectivement.
Ben oui, c'est bien. Et en ce moment, en Europe, il y a Liverpool et les autres. Et dans ces autres-là, le Real est en train de descendre tout en bas, non?
Disons que hier, pour revenir quand même à votre premier propos, le What a Game, j'ai envie de dire si quand même, parce qu'en termes d'intensité, j'ai eu la chance donc d'être à Anfield hier, et je vous assure, l'atmosphère aussi hein, qui a beaucoup compté dedans, parce que parfois Anfield est tensé pour être un peu mollasson. Hier, il y avait vraiment un soutien intéressant. D'ailleurs, le matin du match, dans certains titres de la presse locale, on disait il faut qu'il y ait un soutien beaucoup plus fort que d'habitude parce que ce Real nous a tant embêtés ces dernières saisons.
15 ans sans battre le Real.
Exactement. Donc, pour le coup, la presse a été écoutée hein, parce que les supporters étaient vraiment dedans dès la première seconde. Donc ça a aidé. Et puis, l'intensité mise par les joueurs de Liverpool. On évoquera le Real qui, je trouve, défensivement, n'était pas ridicule, mais ça, on aura l'occasion d'évoquer. Mais Liverpool a mis une telle intensité que, oui, what a game, au moins de la part d'une grande équipe ce soir, hier.
Philippe ?
Oui, mais je suis étonné que Salim ne sache pas que les grandes soirées européennes, c'est un club qui a vraiment la culture européenne. Et les meilleures ambiances à Anfield, c'est les soirées européennes, ce qui tranche. Ça tranche avec beaucoup de clubs anglais où c'est moins diffus. Mais là, vraiment, il y a une culture européenne qui est géniale. Et on l'a ressenti encore hier soir avec l'intensité qu'a mis cette équipe de Liverpool, qui était au-dessus tout simplement de... d'un Real relativement moyen, très handicapé quand même, il faut le dire. Hein.
Quand on a
des absences de ce niveau-là, c'est quand même très dur à surmonter quand même.
Étienne.
Bah oui, très très handicapé quand même ce Real-là, parce que sur leurs trois
Rodrigo,
meilleurs attaquants,
Vinicius.
Il n'en restait qu'un, et on va dire en ce moment, c'était pas le meilleur.
Militao en défense.
Au milieu de terrain, il y avait beaucoup de manques. Derrière, énormément de manques. Donc, c'était une équipe franchement fragilisée. Mais de toute façon, le Real ne fait pas un très bon début de saison, ce qui est exactement le contraire de Liverpool. Donc là, pour le coup, le rapport de force était vraiment très en faveur des Anglais. Mais ce match-là, c'est un match du mois de novembre. Et le Real, il a souvent l'habitude de donner rendez-vous un petit peu plus tard dans la saison. Maintenant, il faudra se qualifier. Ce qui n'est quand même pas si compliqué avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions.
Mais ils sont
24e, juste devant le PSG.
Mais Étienne, même si d'habitude, effectivement, c'est en février, en mars qu'on attend le Real dans la phase finale de la Champions. D'habitude, en octobre, novembre, quand même, les résultats sont là. Ou en tout cas, il y a des choses qui sont montrées. De perdre trois fois pour le Real, c'est beaucoup quand même en Ligue des Champions.
Justement, Manu, on en parlait tout à l'heure. La dernière fois qu'on s'est vu pour cette émission, c'était en mi-octobre. Et il nous disait, et quand on s'est vu tout à l'heure, il dit, oui, mi-octobre, j'ai dit, non, mais ça va aller mieux dans un mois.
c'est qu'est octobre, et maintenant,
il peut dire la même chose maintenant.
C'est que novembre. Et en parlant des blessés, il faut voir aussi, parce qu'Mbappé, Bellingham et Brahim,
absolument,
vont devoir passer des tests vendredi. Ils sont un peu touchés. Et Camavinga, normalement, c'est 3 semaines d'absence, 2-3 semaines. Je crois qu'on a voulu le Real Madrid de cette saison. Hein. On a voulu le Real Madrid avec un Mbappé qui n'arrive pas à trouver sa place. Au-delà de penalty, on avoue qu'il a tout raté, mais vraiment les contrôles.
On va y revenir tout à l'heure.
Oui. Et un Madrid qui physiquement n'est pas au niveau non plus. Modric, ce n'est pas un joueur pour être titulaire face à une équipe anglaise. Je suis désolé, c'est un magnifique joueur, mais il a plus le niveau physique. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, les blessures qu'ils savaient jusqu'à ces matchs, les joueurs blessés comme Camavinga et les joueurs qui pourraient être blessés, les trois que j'ai nommés. Donc, c'est un peu le Real Madrid. La différence, surtout par rapport à la dernière saison, c'est qu'il arrivait à s'en sortir avec un but.
Devini,
oui, à la fin. Même cette fois-là, si Mbappé il n'avait pas raté les pénaltys, on pourrait parler d'une autre chose.
On va reparler
cette saison, ça n'arrive pas.
Et du Real, et
il veut se reparler de Mbappé.
Je voudrais qu'on reste d'abord un petit peu sur Liverpool, 2-0, donc sans forcer pour les Reds. Au passage, on rappelle, nos auditeurs aiment les chiffres, 19 matchs disputés cette saison. 17 victoires, c'est quand même la lune. On rappelle qu'ils ont changé d'entraîneur. Hein. Ouais. Arne Slot est arrivé, Jürgen Klopp est parti. Donc il y a une défaite, c'était il y a 2 mois et demi, le 14 septembre. Nottingham Forest à domicile. Nottingham, ils peuvent la garder celle-là parce qu'elle peut rentrer dans l'histoire. 5-5, surtout en Ligue des Champions, et pas tout à fait contre des pipes quand même. 3-1 victoire face au Milan AC, 2-0 face à Bologne, ok, 1-0 face à Leipzig, bon, depuis on sait que Leipzig, 5 matchs, 5 défaites, 4-0 face au champion d'Allemagne, Leverkusen, et hier 2-0 face au Real, leader de la Ligue des Champions, leader de la Première Ligue avec 8 points d'avance sur Manchester City. Je lisais ce matin sur Twitter, un vrai régal, un football positif, offensif, collectif, le cœur de Bradley, la générosité de Luis Diaz, de Núñez, l'intelligence de McAllister et de Kravenberch. Slot a sublimé le travail de Klopp. Alors un petit tour de table, une fois que j'ai dit ça, et après on écoutera Arne Slot justement.
C'est vrai qu'on pouvait être alors dubitatif, ou en tout cas interrogatif sur l'arrivée de Slot, parce que passer derrière Klopp, c'est comme passer derrière Wenger, c'est comme passer derrière Ferguson. On se dit, est-ce qu'on va réussir
derrière Giroud, à Auxerre,
si vous voulez, en tout cas parmi ces noms qui ont marqué un banc. Mais c'est vrai, au final, parmi ces noms qui ont marqué un banc pendant tant d'années, c'est vrai qu'Arne Slot, les premiers matchs, et je me souviens même de certaines lectures en Angleterre où on se disait. Ben là, sur le premier match, on ne voit pas trop la patte Arne Slot. On était dans la continuité. Et ça a été, semble-t-il, ça, son intelligence, de ne pas forcément changer les choses au début. De laisser et d'être dans cette continuité-là et d'amener petit à petit sa touche. Et cette touche-là, la verticalité, on la ressentait déjà. L'année dernière, ça allait très vite. Et en plus, il y a aussi par séquence des séquences de possession de balles assez folles. Il arrive à mixer les deux. Et on a au final une équipe qui est pas imbattable, puisqu'elle a été, mais rarement battue, ça c'est sûr.
Philippe, oui, ce Liverpool-là, je disais tout à l'heure, meilleure équipe d'Europe, certains disent meilleure équipe du monde, il n'y a pas d'équivalent en ce moment sur la planète foot.
Oui, mais enfin, il faut se méfier de la culture de l'instant. Si vous voulez que ce soit le meilleur club de novembre, très bien, pourquoi pas faire des élections
du début de saison.
Ou de la dernière semaine de novembre.
On peut faire tous les mois quelques...
Non, mais là, ça fait trois mois que ça dure, deux mois et demi, on va dire.
Quelque chose, oui, tout à fait. Et de façon assez convaincante, même s'il y a eu quelques victoires en Première Ligue très arrachées. Mais globalement, c'est très, très convaincant et c'est un jeu spectaculaire qui intéresse tout le monde. Donc, je consens tout à fait les commentaires flatteurs d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gagneront haut la main
en
mai.
Il suffit d'un
exactement, on en est loin. Mais il n'y a pas que l'entraîneur. C'est aujourd'hui un des clubs les mieux organisés au monde, qui a vraiment, sur le plan, la cellule recrutement est à un niveau remarquable. Ils avaient commencé sous Klopp les deux dernières saisons à renouveler progressivement l'effectif, avec chaque fois un peu de regard un peu dubitatif en disant « Ah bon, ce joueur-là, vous êtes sûr ? Pour Liverpool, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va ?» Et on s'aperçoit qu'en fait, les joueurs qui ont mis parfois 3 mois, 6 mois, 9 mois à s'épanouir, ils sont tous à très bon niveau. Je n'ai pas entendu de sarcasme hier soir sur Núñez, par exemple. Alors que depuis 2 ans, tout le monde était là, oui, bof,
qu'est-ce
que ce joueur
Il dribble pour
rien. Non, c'est un remarquable renouvellement, parce qu'ils étaient arrivés un peu au bout, l'équipe de Klopp, elle était arrivée au bout il y a 2 ans, en fait. Et depuis, ils ont renouvelé, ils n'ont pas été champions, ils étaient derrière City, et même parfois assez loin. Mais petit à petit, on sentait cette équipe venir, et aujourd'hui, elle vient. Alors, c'est peut-être une partie de ça va évidemment à Arne Slot également.
Étienne.
Mais cette équipe de Liverpool, je dirais que comme celle de Klopp avant elle, c'est une équipe toujours de début de saison quand même. Ils ont cette habitude-là de tout fracasser un peu en début de saison. Et parfois, comme ils ont un jeu extrêmement énergivore, au fur et à mesure de la saison, il y a parfois des équipes de Liverpool qui s'usent un peu et qui ne réussissent pas à reproduire ce jeu qui est quand même compliqué à maintenir sur toute une saison au niveau physique. Donc, quand vous voyez une équipe du Real qui a un jeu beaucoup plus minimaliste, on va dire, beaucoup plus calculateur, avec quelques individualités qui font des différences à des moments clés de match, alors ce n'est pas du tout le cas en ce moment, d'ailleurs les individualités, elles ne sont pas là, donc il n'y a même pas de débat, mais je trouve que de dire que Liverpool est la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde en ce moment, etc., je trouve que c'est forcément des choses qu'on voit et qu'on a vu d'autres fois à ce moment-là de la saison. Donc,
pour Liverpool.
On ne va pas faire des clichés à 2,50 francs ou à 5,5 euros. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus tard dans la saison qu'on va juger quand même. Et puis, dans un style complètement différent, le début de saison du Barça est remarquable aussi. C'est-à-dire que ce soit en Europe ou que ce soit en championnat, c'est pas quand même très très loin de ce que peut faire Liverpool. Avec un style très différent.
Manu.
Ouais, je dois avouer que je ne prévoyais pas une si bonne saison pour Liverpool, au moins un si bon début de saison. Moi, je croyais que ça allait être un peu plus traumatique, le départ de Jürgen Klopp. Mais ils ont fait un bon choix avec Slot, un très bon entraîneur, mais pas si médiatique. Donc, ils ne sont pas cherchés un héritier pour Jürgen Klopp. Et je crois que ça, c'est très bien. Il y a 2 choses pour moi, la continuité sur le travail. On parlait de Darwin Núñez, je me souviens la dernière saison, comme Jürgen Klopp devait le défendre en conférence de presse, dire bon, il est en train de s'habituer, vous inquiétez pas, il va réussir. Bon, finalement, ça va. Et aussi, il a l'avantage de ce que j'appelle les rythmes premier. Il joue à une vitesse différente, avec une intensité différente, on l'a vu hier. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de la saison, on va voir, mais ils ont aussi l'avantage de qu'il y a un rival comme Manchester City et pas le tour, au moins pour l'instant, donc je crois que ça va jouer à sa faveur. Donc pour moi, c'est un magnifique travail, une équipe qui est très agréable à regarder.
Juste pour compléter, dans les semaines à venir, il va y avoir quand même trois dossiers à suivre qui vont peut-être ou pas impacter sur la saison de Liverpool.
Je vous vois venir. J'avais l'intention de l'aborder, notamment le dossier Salah.
Notamment, effectivement, puisqu'il y a des fins de contrat à venir pour Mohamed Salah, pour Trent Alexander-Arnold, pour Virgil van Dijk. On parle de trois cadres hein, qui ont compté cette saison. On les prolonge, on les prolonge pas. Alors pour l'instant, ben, Mohamed Salah, il l'a évoqué même à sa façon le week-end dernier.
On l'a entendu sur cette antenne lundi.
Mais au final, ça n'a pas changé sa manière de jouer sur ce milieu de semaine. Il faudra voir dans les semaines à venir si ça change ou pas.
Je vous propose d'écouter Arne Slot, en tout cas, quand on dit qu'il a sublimé le travail de Klopp et globalement, le discours après le match d'hier du Norvégien.
Oh, I don't think we transformed that much. We adjusted a bit, but...
Je pense qu'on n'a pas transformé grand-chose. On a simplement fait quelques petits ajustements. Peut-être que c'est la première fois que vous venez à Liverpool. Mais pour les anciens, ils étaient presque habitués à voir le club en finale. Ou en tout cas, en être très proches. Cette équipe a toujours été là. Sûrement que sur ces deux dernières années, ça a été un peu différent par rapport aux précédentes. Mais c'était une question de petits détails. Il n'y a eu que 5 matchs dans ce nouveau format. On est très content d'être là où on est. Mais on ne va pas s'emballer parce qu'on a gagné des matchs de groupe. Ce club veut tellement plus que gagner des matchs de phase régulière.
Et tout ça avec la voix de Salih Diouf qui maîtrise à la fois le norvégien.
Le néerlandais.
Phénoménal. Le prochain match, on le rappelle, c'est Manchester City dimanche. Liverpool-Manchester City.
Bon. Petit match.
Ouais.
Petit
match. On va voir s'il n'y a pas mieux. Il y a peut-être un Grand Prix de Formule 1 au même moment.
Il y a Marseille-Monaco aussi, pas mal le dimanche.
Ouais, non, alors on va rester sur Liverpool.
Dortmund-Bayern le samedi aussi, Dortmund-Bayern.
Non, mais c'est vrai que c'est une sacrée affiche.
Ça peut griffer ce match. Ouais.
Ah, ben on va y revenir aussi, au coup de griffe. Mais ça peut griffer, effectivement, ça peut faire enfin, très mal.
En ce moment, Manchester City griffe pas grand monde quand même.
Ouais, c'est donc, ça. C'est à tel point que c'est son entraîneur qui se griffe lui-même.
Ils se prennent quand même quelques raclés, donc on va voir. Je pense qu'ils sont capables de se remobiliser pour ce match-là, mais en tout cas, il est évidemment crucial. On ne va pas déjà dire pour le titre, mais enfin, il peut y avoir un énorme écart.
Bah parce que 11 points, alors même si City a déjà remonté des écarts assez phénoménaux ces dernières saisons, mais là, 11 points avec, on évoquait pour le Real, les blessés, là, des blessés, il y en a aussi à City. Et quand vous avez l'un des meilleurs joueurs du monde, votre élément central au milieu de terrain qui n'est pas là, Rodri, évidemment, ça change beaucoup de choses à City.
Ouais, ils sont quelques-uns aussi à être absents du côté de City.
C'est ça.
Ceci explique peut-être cela. On a dit un mot de Salah, on va faire un petit tour de table. C'est vrai que ça paraît incroyable que ce gars soit obligé de dire aux journalistes « Non, moi, je n'ai pas eu de proposition. Oui, mais les supporters veulent que vous restiez. Ah, mais moi, je veux rester aussi. Les supporters, ils sont contents, mais moi, je n'ai pas la main et eux non plus. » Salah, qui a donc raté un pénalty, là, on peut le dire, hier, il a effleuré le poteau. Et tout de suite après, on n'a pas pu vous retrouver ça, c'était dans le direct. Mais qu'est-ce que ça devait être chouette à vivre. Je vous regarde forcément, Salim. Anfield qui chante la gloire de Salah, qui vient de rater un pénalty, qui peut tuer le game à ce moment-là. Et qui est chanté, si les dirigeants de Liverpool ne comprennent pas qu'il y a quelque chose à faire, ils ne le comprendront jamais.
Le truc, c'est que depuis qu'il est à Liverpool, parce qu'il a été tensé avant Liverpool, lorsqu'il était à Chelsea, c'était pas évident, c'était à Chelsea.
Rappelez-vous,
c'est pour ça qu'il avait été prêté aussi, qu'il était revenu sans que Chelsea le garde finalement. Et après, on voit ce qui se passe à Liverpool. Donc au final, il n'a jamais vraiment déçu à Liverpool. Il y a eu des moments un peu moindres, c'est vrai, mais... Il a toujours marqué sa 25-30 minimum, 25-30 buts minimum par saison.
Mais
là,
en première ligue ou depuis le début de saison, il doit être à 14 buts.
Là,
il
est déjà toutes compétitions confondues en double-double. Ouais. Déjà, on est qu'en novembre.
14 et 10. Et en Ligue des Champions, 4 passes décisives.
C'est ça qui est assez phénoménal. Et on se dit, est-ce que sur le côté gauche, est-ce qu'on veut renouveler à Liverpool et donc penser à moyen long terme aussi? Ou se dire, mais ça là, on peut quand même le garder encore 2 ans. Ça va être toute la question à Liverpool, tout comme pour Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, encore une fois.
Trent Alexander-Arnold, peut-être ça dépend pas de Liverpool.
Du Real aussi, le Real qui est très intéressé, semble-t-il.
Et ça là, je lisais ça il y a quelques jours d'un ami de la famille Penaud, c'est ça, Penaud, Hervé, je crois son prénom, qui disait peut-être que le PSG pourrait être gentil avec Salah.
Et
je suis pas sûr que Salah
je précise qu'il y a
PSG,
aussi un pays qui voudrait être sympa avec Mohamed Salah, l'Arabie Saoudite, qui est très intéressé par lui. L'année dernière, ça avait été le cas.
Permettez-nous de penser qu'on préférerait le garder en Europe quand même et dans un championnat un peu plus flamboyant.
En tout cas,
on préférerait, mais c'est quand même pas une certitude.
Bien sûr,
c'est pas une certitude. Parce que, quand même, 32 ans, et que lui, dans les déclarations qu'il vient de faire, elles sont assez malignes aussi. C'est quand même il a aussi ces propositions-là qui sont à des montants absolument faramineux.
Ouais, donc, je pense pas qu'il soit inquiet pour son avenir.
Et nous non plus d'ailleurs.
Je crois qu'il a juste envie de jouer encore au plus haut niveau. Il le disait dans cette interview. Je suis pas du tout prêt de la retraite. Je n'ai pas envie de partir à la retraite. J'ai envie de gagner la Première Ligue. J'ai envie de gagner la Ligue des Champions.
Etienne le dit très bien. C'est un moyen de mettre la pression aussi sur ses dirigeants et de faire comprendre aussi aux autres. Et vous me voulez, mettez.
Aussi aux supporters, non, de dire moi je vais rester. Ce sont les autres qui m'appellent pas pour rester.
En plus, ils
moi
j'ai mis la poche.
Ouais, voilà.
Il a très bien fait.
Bon, voilà pour Liverpool. Quelques mots sur ce Real aux abois. Ça passe en Liga.
Qui ça le
Real.
Parce que j'ai vu que Liverpool,
c'est ça.
Le champion d'Europe, vous voulez dire.
Le Real, oui. Le tenant du
15 fois champion.
Le club aux 15 Ligues des Champions ou Coupe des clubs champions pour les plus anciens. Un Real aux abois. Donc ça passe en Liga, ça ne passe plus en Ligue des Champions. Trois défaites en 5 matchs. Le Real ce matin, 24e avec 6 points, c'est-à-dire 2 de plus que le PSG, qui est 25e. Le prochain match, c'est à l'Atalanta, qui, au contraire, on en dirait un mot, flambe. L'Atalanta, 5e de ce classement, est déjà qualifié pour la suite. Hein, 11
et
points.
Et co-leader de la Serie A aussi.
Oui, co-leader de la Serie A. Ensuite, le Real recevra Salzbourg. Bon, voilà. Et puis, ira à Brest. On n'est pas trop inquiet.
Pour la qualif, non.
Salzbourg, mais plus vraiment un cachou devant l'autre. Ouais. Et Brest sera sans doute aussi qualifié. Il l'est déjà à 10 points. Il peut y avoir exploit, bien sûr. Hein. Le Real a perdu à Lille. Ça pourrait être plus compliqué pour terminer que Salzbourg et Brest.
Attention,
ce sera à Guingamp en plus, hein, le match, effectivement. Donc, l'immense enceinte du Renault. Hein.
Est-ce que Ancelotti peut être menacé?
On l'est toujours au Real. Ce sont des clubs où les entraîneurs ne sont pas très importants. On le sait bien. Mais il est tout à fait plausible que si ça se passe mal, qu'il n'arrive pas, par exemple, à l'Atalanta à ramener un résultat et que le Real soit réellement inquiet, il n'est pas du tout impossible qu'il fasse jouer ce choix. Hein. C'est tout à fait dans les habitudes du club. Aucun entraîneur n'a jamais freiné ça. Hein.
Juste, imaginons un instant, on évoque l'Atalanta qui est très fort à juste titre. Imaginez une humiliation. Pourquoi pas, hein, l'Atalanta, ça flambe offensivement parlant. Imaginez
une
humiliation.
Un zéro, hein. Même un zéro.
Même un zéro, mais encore plus.
6 points, 4 défaites en Ligue des Champions sur 6 matchs.
Quel cadeau de Noël serait une rupture de contrat.
S'ils arrivent qualifiés, au moins pour les play-in, je crois qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Je crois qu'il a trop gagné Ancelotti pour se faire virer mi-saison. Je crois que pour l'image de club et puis tout ça, qu'il n'y a pas des remplaçants disponibles. Une autre chose, c'est l'été.
On en a vu d'autres quand même.
On en
a vu d'autres. C'est vrai que le scénario qui est évoqué, il n'est pas complètement abracadabrantesque quand on voit le niveau actuel du Real, c'est-à-dire avec les blessés actuels et ceux qui vont s'ajouter, comme ça vient d'être dit. Dans quel état ils vont arriver dans ce match-là? C'est vrai que s'ils prennent une volée, mon ami, qui n'est pas vraiment mon ami, Florentino Pérez, il en a fait d'autres quand même, des choix assez radicaux. Donc moi, je ne suis pas dans ses petits papiers ni dans ses confidences, mais enfin, ça ne me paraît pas complètement impossible.
On va suivre ça de très très près, voir si Carlo Ancelotti est menacé. Est-ce que Mbappé, lui, l'est? Sans doute pas, mais Mbappé, ou plutôt son fantôme, hein, finalement. On se demande si... en fait, il est au niveau du PSG, Mbappé, sauf qu'il a changé de club.
Non, il n'est pas au niveau du PSG.
C'est pas sympa pour le PSG.
Il est au niveau.
Je suis pas là pour être sympa
avec
le PSG.
Non, il est en dessous. Il est
même en dessous du niveau actuel du PSG.
Niveau du PSG actuel.
Oui,
bien
sûr. Évidemment, c'est ce que je disais.
Moi, je dis qu'il est même presque en dessous du niveau du PSG actuel. Le match de Mbappé hier soir, qui s'ajoute à quand même de nombreux autres matchs de Mbappé. Extrêmement inquiétant.
Pénalty raté, pas un dribble réussi ou presque, muselé par Connor Bradley, un jeune Irlandais de 21 ans, 15 ballons perdus et tout ça sans Vinicius, puisqu'on nous expliquait ces dernières semaines que le problème c'était que machin.
Je pense que le problème de Mbappé hier soir, c'est qu'il n'y avait pas Vinicius. C'est-à-dire que les bouts de match qu'il a fait pas trop mal au Real depuis qu'il est arrivé, c'est grâce à Vinicius.
Absolument, parce que ce qu'on évoquait, ce qui était parfois évoqué peut-être par l'entourage, c'est le côté gauche, le fameux côté gauche de Mbappé. Il aime son côté très bien. Hier, il a beaucoup utilisé ce côté. Alors, il était parfois mangé par Bradley, parfois il a essayé de passer. Mais c'est vrai que dans l'axe, qu'on ne le voyait pas, parce qu'on peut pointer du doigt Mbappé à juste titre. Mais hier, Arda Güler, c'est un futur bon, c'est certain, il montre des qualités. Mais ça reste un jeune qui, à la base, ne doit pas être titulaire au Real. C'est un joker. Brahim Diaz, à la base, c'est un joker. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être titulaire. À la base, je rappelle, les titulaires, c'est Rodrigo Vinicius. Hier, on avait Brahim Diaz, Arda Güler. Alors, c'est le problème aussi, qualitativement, de cette équipe touchée par les blessures. C'est un fait aussi. mais qu'on ne veut pas la profondeur de banc, bah, elle n'est pas là. Donc Mbappé, il veut être leader, bah, il ne peut pas être leader avec une équipe qui est moindre aussi.
Ouais, Mbappé, hier, pour moi, il a fait un mauvais match.
Non, mais aussi, même individuellement, bien sûr.
Quand tu dois passer un coéquipier qui a 7 mètres de distance et ta passe passe à 4 mètres, ce n'est pas une question
véridique,
de
véridique.
Évidemment, c'est différent, mais je crois que c'est un état des formes. Il avait déjà prévenu tout le monde pendant l'Euro, une conférence de presse ou deux. Il avait dit, il avait signalé la prochaine saison, non, celle d'après, ça sera la bonne, quand je puisse me préparer avec mon club. Je crois qu'il voyait déjà qu'il n'était pas à son niveau. Et hier, en plus, il y a ça, il a pu jouer à gauche. Après, Arda Güler vient de faire un très bon match le week-end. Brahim, les minutes qu'il a avec le Real Madrid, il a joué très, très bien aussi. C'est pour ça qu'il était titularisé hier. Je crois que les problèmes, c'est vrai que c'est plus facile de jouer avec Vinicius, tout à fait. Mais je crois que les problèmes de Mbappé cette saison, c'est Mbappé lui-même. Ce n'est pas une question s'il joue comme neuf, s'il joue à droite ou à gauche. C'est qu'il n'est pas au niveau, il n'arrive pas à marquer. Et ça, il a un blocage mental qui ça commence vraiment à avoir un impact
physique,
sur son jeu.
Physique aussi.
Physique, mais qui est devenu mental, c'est ça que je veux dire. Et on l'a vu même hier, il est parti. Dès que l'arbitre a dit c'est fini, il est parti, il n'est pas resté avec ses coéquipiers. Il est parti, il y a même des supporters qui ont signalé ça, qui l'ont critiqué.
Le body language, comme on dit, le langage corporel, on en parle beaucoup en tennis, un sport qui nous est cher, Philippe. Mais c'est vrai que hier, quand on regarde Mbappé, tout est perturbé.
Il est perturbé, c'est clair. C'est clair qu'il est complètement perturbé. Je l'ai trouvé plein de bonne volonté. Il a tenté des tas de choses. Et puis, soit de temps en temps, il lui manquait des jambes, tout simplement, parce qu'il démarrait, il faisait un démarrage impressionnant. Après, il marchait sur la balle. Il dit, tiens, Mbappé qui marche sur le ballon, c'est quoi ça ? Et puis, à d'autres moments, il a fini par renoncer un peu, parce que petit à petit, ça s'est dégradé. Il a raté de plus en plus de choses. Le pénalty a été le point final. Mais il est perturbé psychologiquement, visiblement. Alors, je ne sais pas après à qui attribuer cela, à lui ou à sa fin avec le PSG qui a été pénibilissime et dont on n'a sûrement pas mesuré toutes les conséquences. L'euro n'a rien à jouer. Oui, le voyage en Suède aussi, bon, peut-être. L'euro n'a rien ajouté à sa gloire non plus. Non, il est véritablement perturbé, profondément
moment
perturbé.
Difficile pour lui, nous dit après le match Carlo Ancelotti, nous allons lui donner de l'amour. Bon, ça, c'est gentil. Écoutons Luka Modric, qui lui aussi veut aider Kylian Mbappé.
Bien, Mbappé, je le vois bien. Ça n'a pas marché pour lui aujourd'hui. Il a raté ce pénalty. Peut-être que ce pénalty aurait pu changer le cours du match, mais bon, il travaille bien, il a un bon état d'esprit, et nous sommes là pour l'aider à donner le meilleur de lui-même, et je suis sûr qu'il le fera.
Ça a du Diouf, vous voyez, il passe de Arne Slot à Luka Modric, tranquille, c'est facile
incroyable
pour lui.
Ouais.
Ah ben, le gars, il a quand même des cordes à son arc. Hein. bref, ils veulent l'aider, tous, ils veulent l'aider, ça va aller alors.
Bon, après, rassurez-nous, Luka Modric devant la presse, il va pas dire, ah non, on va le mettre de côté, on va le laisser tranquille. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette séquence qui
non, mais il peut éluder la question.
Non, ben non, il peut pas, parce que s'il élude,
avec
la presse espagnole, c'est cuit.
Même s'il évite la question, ça aurait été perçu comme une critique.
Évidemment,
je ne veux pas parler
totalement
de lui.
En revanche,
je dis 100%, au moins publiquement, ouais.
En revanche, c'est vrai qu'il y a eu cette image. Vous savez, il y a les caméras qui sont dans les couloirs avant d'entrer sur les pelouses. Et il y a cette séquence, donc on est au retour de la mi-temps. Et vous avez les joueurs du Real qui discutent entre eux. Et là, il y a Kylian Mbappé qui comme ça, commence à toucher le bras de Jude Bellingham pour échanger avec lui. Et là, Jude Bellingham, alors il le fait exprès ou pas, on le saura jamais. Il ne regarde même pas Kylian Mbappé, alors que Mbappé, on voit, il commence à lui parler. Il ne le regarde même pas et il parle avec les autres. Et là, Mbappé, il recule et on a l'impression que c'est un petit enfant qui est contre le mur, qui attend que Jude s'adresse à lui. C'est peut-être anecdotique, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être pas de chance. Mais encore une fois, c'est une goutte parmi tant d'autres et qui vont malheureusement dans le sens du Kylian Mbappé bashing, ou en tout cas qui va moins bien.
On continue à parler de Ligue des Champions et des matchs d'hier avec un focus sur les clubs français.
Et passé, le retrait pour Boko. C'est le grand soir.
La frappe, Hugo Lloris ensuite pour Belseguir qui attendait l'offrande, qui attendait l'aubaine et qui dès la 13e minute place Monaco devant. Ce gamin est supersonique. En retrait, il y avait Soukoutou Magassa qui dans un moment difficile pour l'AS Monaco fait passer la SM devant le rocher.
chuter l'AS Monaco et plombe la soirée des Monégasques 3 buts à 2. Que c'est cruel pour l'ASM.
Enfin, ça a surtout plombé la soirée de notre ami Babacar Diarra, grand supporter de l'ASM. S'il est à l'écoute, Babacar, on l'embrasse bien fort, il y aura des jours meilleurs. Alors même si cette cinquième semaine de compétition a été la moins bonne de toutes pour les Français, trois défaites en quatre matchs, à trois journées de la fin, trois clubs français sont dans les 12 premiers. Qui l'eût cru ? Ça veut dire pratiquement, on va dire, qualifiés pour les barrages avec au moins 10 points. Elles ont toutes 10 points.
Donc s'il y en a trois, ça veut dire qu'il y en a un qui n'y est pas, donc c'est dans les 12.
Voilà, exactement. Il n'y en a qu'un seul. Mais qui est loin, loin, loin. C'est ça, qui est 25e. Monaco, Brest et Lille. Comme ça, ça vous donne une idée pour chercher le quatrième. 8e, 11e et 12e. Alors, on parle d'abord de Monaco qui a raté le coche face à Benfica. Défaite 3-2 à 10 contre 11 après avoir mené 1-0 puis 2-1. Il y a eu l'expulsion de Wilfried Tsingo, l'ivoirien, c'est ça qui casse tout. Elle est sévère, on est d'accord là-dessus ou pas?
Oui, elle est très sévère, ouais. Un très mauvais arbitrage, mais enfin, c'est.
Wilfried Tsingo qui fait un début de saison super hein, avec Monaco, qui fait un super début de saison.
Ouais, et puis son exclusion est extrêmement sévère de mon point de vue, et surtout dans les dernières minutes, il manque terriblement dans l'axe de la défense de Monaco, qui déjà prend pas mal de buts, mais sans lui, c'était trop dur sur les caviars que pouvait délivrer notre ami
Di Maria.
Di Maria, merci.
Trois passes décisives hier, je voulais en dire un mot, ben voilà, c'est fait.
Voilà. Mais Monaco, moi
tiens, l'ancien parisien, t'es trop vieux pour Paris. Ouais.
En dépit de la défaite, j'ai envie de les saluer parce que à 10 contre 11, c'est incroyable la réaction qu'a eu Monaco et une réaction par le jeu sans faire comme font les équipes qui sont à 10 contre 11 de se recroqueviller en espérant envoyer une flèche devant à un moment donné pour marquer un but. Non, ils dominaient largement cette équipe de Benfica à 10 contre 11. Il y a vraiment un plaisir à les voir jouer. C'est vraiment délicieux avec des joueurs comme Ben Seguir, comme Kliouche, qui sont de jeunes joueurs merveilleux. Mais défensivement, il y a toujours des carences.
Eh bien, Elias Ben Seguir, vous venez d'en parler. On va l'écouter 20 secondes à peine, mais il résume assez bien, sans doute, le sentiment en fin de match. Et ce qui explique cette défaite, il faut savoir gérer les émotions.
L'ambiance, elle n'est pas terrible. Ce n'était pas le résultat qu'on voulait. Je pense qu'on y a mis la manière, mais c'est vrai qu'après le sort du match, on va dire qu'il s'est joué sur ce carton rouge. Ça a été plus difficile pour nous. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'on gère mieux nos émotions, mais c'est comme ça, il reste encore trois matchs. On va essayer d'aller chercher des points sur ces matchs-là.
Excès de confiance, les Monégasques. Alors, la jeunesse, c'est aussi ce qui fait leur charme. Ils attaquent, c'est un jeu hyper plaisant. Bah, y a des soirs, ça passe pas.
Oui, exactement. Il y a des revers à cela, et Monaco l'a expérimenté hier. Ils ont un très beau parcours depuis le début. Là, c'est un accro embêtant, très embêtant même, qui va les mettre dans une situation qui va les obliger quand même à beaucoup bosser sur la fin de la qualification.
Je donne leur programme, hein, je vous repasse la parole. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'avec 10 points, si ça ne passe pas, ça va être compliqué.
Non, 10 points, ils vont passer. Non, mais
ils
vont passer,
ils sont au moins barrage.
A priori, oui, à 99, c'est Opta qui sort cette stat. Mais la suite pour Monaco, c'est quand même à Arsenal, qui est 7e pour l'instant du classement, reçoit Aston Villa, qui est une très bonne surprise, je voulais qu'on en dise un mot, qui est 9e du classement, et qui finit à l'Inter, qui est pour l'instant 2e, juste derrière Liverpool.
Ouais, ouais. Wow, non, c'est corsé, ce qui veut dire qu'ils peuvent transformer une très belle qualification qui aurait même pu les voir être dans les 8 premiers éventuellement une qualification bas de gamme en n'étant même pas dans les 16 premiers, en étant dans la tranche de 17 à 24, ce qui serait quand même dommageable. Bon, on n'en est pas là, ils sont tout à fait capables de faire des résultats contre ces équipes-là, mais c'est un véritable accro ce qu'ils ont fait hier soir, c'est vraiment dommageable, parce que Benfica était largement à leur portée, à mon sens.
Tous d'accord là-dessus ?
Oui, je crois surtout, ou j'ai craint plutôt que cette défaite ait un impact pour les matchs qui sont à venir. C'est une équipe qui était capable de battre Barcelone. Mais après la fin de cette phase des ligues, non, c'est pas la phase des poules, c'est plus la phase des poules, bah ça va être compliqué. Bon, c'est un peu dommage, je vois, parce que c'est ça, c'est une équipe avec des... J'aime bien Kluche. C'est une équipe qui a commencé très, très, très bien, mais ce qui peut faire la différence, c'est surtout ça, c'est que tu risques de finir 20e. Et puis même pour les play-offs, tu risques d'avoir un rival important parce qu'on voit comme le PSG et Madrid sont loin.
C'est pas sûr parce que les grosses équipes elles sont derrière en ce moment.
Même si tu termines à 0 points ces dernières 3 matchs, tu risques de te faire virer lors de play-offs.
Pour les barrages, c'est par exemple le 9e affronte le 24e.
le 10e, le 23e, etc.
Voilà, à ce moment, le 24e, c'est le Real Madrid.
Voilà. Et quand on voit certains gros, il y a le Real, il y a le PSG, enfin dans cette zone-là, il y a la Juve, City
qui sont dans cette... Real Madrid.
Le, voilà, par exemple, il y a la Juve, City qui sont dans cette zone-là aussi. Enfin, au final, c'est pas si top de finir 9e ou 10e.
Il pourrait finir 20e, donc.
Ouais, presque.
Nouveau coup des Lillois, pour parler de l'autre club français en lice hier. Les Lillois et de Pep Genesio, vraiment 2-1 à Bologne, 10 points au compte après des victoires, on le rappelle, sur le Real, sur l'Atlético Madrid. Franchement, elle est emballante, cette équipe. Écoutons le héros de la soirée. Ça va faire plaisir à nos auditeurs congolais, notamment du côté de Kinshasa, de Lubumbashi, entre autres, Ngalayel Muko, le héros de but pour ce jeune Congolais de 20 ans tout juste. Il les a eus il y a 3 semaines.
C'est un très bon match à nous. Pour moi aussi, c'est la première fois que je joue un peu plus haut, parce que de base, je suis un milieu défensif. Mais le coach voulait tester un autre truc, donc je suis très content avec mes premiers buts. En fait, j'avais jamais marqué, même dans mes anciens clubs, aussi même en championnat. Donc là, la Ligue des Champions, c'est un rêve depuis tout petit, donc je suis très content.
Il est très très content et on le comprend, 12 matchs sans défaite au passage pour Lille. Mais lui, c'est vrai, un petit mot, un doublé en Ligue des Champions, ça claque quoi, le gosse. Et puis il est sympa à entendre.
Oui, mais c'est le mérite de Lille, c'est-à-dire d'avoir réussi aussi à aller chercher des joueurs. Quand on se rend compte, Pep Genesio, comme vous l'appelez, il fait pas mal tourner et on l'a regardé d'un œil un peu...
Presque trop, parfois on se dit, il est fou.
Un peu bizarre, on trouvait ça quand même assez curieux de faire tourner face à des grosses équipes européennes. Et finalement, ça leur réussit, on se rend compte que l'effectif lillois, il a été très très bien composé. Il y a vraiment de très bons joueurs. Il y a un grand mérite dans le scouting parce que ils ont dégoté des joueurs. Celui-là, par exemple, moi que je connaissais très mal ou pas, pour être tout à fait honnête, et bien d'autres qui font la maille en Ligue des Champions.
Lui qui est né en Belgique, hein,
oui,
en
il a fait toute sa vie à Malines, quasiment.
Exactement. Et c'est cet été qu'il est arrivé. Il est international aussi, hein, puisqu'il a joué lors de la
dernière trêve. Il a 2 sélections.
Lors de la dernière trêve avec la RDC.
Sébastien De Sabre l'a appelé au bon moment, même si ça a été un peu plus compliqué, la fin de campagne qualificative pour la CAN pour les Congolais. Mais quand même,
c'est
un vrai outsider pour la prochaine CAN.
Mais c'est vrai que Muko, c'est sa période. Et réussir en plus, il le dit très bien, a marqué 2 buts en Ligue des Champions pour une victoire. Mais ça a conclu en plus cette belle paire lilloise. Je peux vous mentir, je le reconnais volontiers. En début de saison, j'étais un peu dubitatif. J'arrivais pas à comprendre comment cette équipe lilloise allait réussir à enchaîner le championnat et la Ligue des Champions.
Mais dites pas ça, il y a Sofiane Amazian qui est dans la pièce d'à côté.
Mais il nous écoute pas. Et au final, faut reconnaître que Lille réussit à enchaîner justement en Ligue des Champions des bons résultats et en championnat en plus, ils confirment le week-end.
Ils sont plaisants à regarder. C'est sympa. Ouais, ouais. C'est un vrai vent de fraîcheur dans cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Ils n'auraient peut-être pas fait ça si on avait été dans une version plus classique.
On ne sait pas, mais on se serait moins passionné parce qu'il y a eu plusieurs matchs, plusieurs adversaires différents, donc ça a apporté du piment. D'habitude, on gérait un groupe de 4. Bon, une fois qu'on avait battu, maîtrisé son chapeau 2 ou 3, on savait qu'on allait à peu près se qualifier. Bon, voilà, c'était à peu près réglé. Donc, il y avait peut-être moins d'enthousiasme. Quoique, rappelons-nous que Lille, la dernière fois, était passée en 8e.
Hein. Oui,
c'était quoi, 2022 ou 2021, je ne me rappelle plus. Ils étaient passés en 8e, ils avaient passé leur groupe, leur phase de groupe, dans un groupe peut-être plus abordable que Real, Atlético et autres. Mais enfin, c'est une équipe assez régulière dans ses parcours européens. Elle est souvent là. Genesio est souvent, quand il est dans les parcours européens, il réussit aussi pas mal de choses. Et puis, là où Salim était dubitatif, je crois qu'on a vu qu'il y a pas mal de quelques jeunes qui ont bien, bien renforcé l'équipe, qui fait qu'elle est maintenant extrêmement complète et qu'ils n'ont pas besoin forcément que Gomez soit là pour réussir, parce que finalement, il y a ce qu'il faut pour remplacer et l'équipe est vraiment compétitive.
On l'a dit, 12 matchs sans défaite, toute compétition confondue, cette victoire 5 nuls. La suite pour Lille, Sturmgrat, bon.
A priori, ça peut le faire.
À Lille, ensuite à Liverpool, bon, ils iront faire un peu de tourisme, hein, ça, voilà, ils devraient pas avoir trop de pression.
Le tourisme à Liverpool, bon.
Ah si, c'est de caverne.
Ils vont visiter Anfield. Et puis, ils termineront avec Feyenoord. Voilà, il y a pire quand on voit la suite pour Monaco, par exemple, ou pour le Paris Saint-Germain. On se dit que Lille, qui a déjà 10 points, ça devrait se poursuivre.
Oui, mais surtout que Lille est capable de jouer des matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire se mettre dans l'intensité de la compétition. C'est ce qu'ils font et ce qui est leur force depuis le début de cette saison de Ligue des Champions. Donc, de ce point de vue-là, Je pense que mentalement, ils seront là. Je vois vraiment pas de soucis pour eux.
Messieurs, à trois journées de la fin, chacun une bonne surprise et une mauvaise surprise dans le classement actuel. Où quand on regarde les huit premiers, bon, il y a des gens qu'on attendait là, puis des gens peut-être un peu moins. Dortmund, on le rappelle, qui est quatrième et qui fait un bon début, alors que la Bundesliga, ça se passe moins bien. Ah, qu'est-ce que vous retiendriez de ces cinq premières journées?
Ben moi, on l'a évoqué de manière très subtile tout à l'heure. Aston Villa, qu'on le veuille ou pas, c'est une équipe qui, certes, la saison dernière a fait un super parcours en championnat.
Entraîné par Unai Emery, hein, qui est passé par le PSG.
Voilà, c'est ça, un club, effectivement. Ouais. Mais Aston Villa, en termes de jeu, très intéressant. Alors, même si hier, contre-exemple, Aston Villa-Juventus n'a pas été le match du siècle, mais vous n'avez pas pris de but une nouvelle fois. Bref, défensivement, ça fonctionne. Offensivement, c'est pas mal aussi, même s'ils sont dans un tempo un peu plus délicat sur les 3-4 dernières rencontres. Mais Villa, c'est la belle surprise de cette première partie de saison en Champions, évidemment.
Dans un sens ou dans l'autre, une équipe qui vous a plu ou qui vous a déçu?
On est tous déçus par le PSG, forcément.
Évidemment.
PSG avec 4 points et encore...
Oui, qui se retrouve au classement avec le Shakhtar Donetsk qui ne joue plus chez lui depuis au moins 2 ans, avec le Sparta Prague, Sturm Graz, l'Étoile Rouge Belgrade.
Il faut rappeler que la qualification est plus facile qu'avant. Il y a 24 équipes, il y a 2 équipes sur 3 qualifiées.
C'est pas mal de le rappeler au PSG.
Ah, non, mais c'est vrai. Ouais, il y a 2 équipes sur 3 qualifiées. Avant, c'était 2 sur 4. Bon, c'est pas pareil. Donc, c'est extrêmement décevant de voir des très grosses équipes comme le Real ou PSG à des classements qui sont tout à fait indignes, sachant que dans les dernières équipes, vous avez des équipes qui les écraseraient tous les week-ends.
Slovan
5-0.
Bratislava, Young Boys, Leipzig, on l'a dit, 5 matchs, 5 défaites. Bologne, 1 point. Salzbourg, 3 points. Enfin bref, oui, c'est non, le c'est PSG de ce niveau-là.
Bah non, ils peuvent pas être de ce niveau-là, mais au classement ils sont là.
Non, j'allais dire aussi PSG, peut-être Real Madrid, si on cherche quelqu'un de positif à Atalanta, mais pour moi surtout c'est la confirmation de que c'est un peu chaotique dans le sens de que tu connais pas vraiment les calendriers, parce que ça change tous les temps, c'est difficile, avant c'était plus facile. Et je ne sais pas s'il y a des équipes comme le Real ou le PSG qui sont un peu contagiées de tout ça, qui n'arrivent pas à trouver sa place dans la compétition. Bon, ça, c'est chaotique, plus difficile à suivre, mais quand même avec des sensations différentes.
On va avoir du suspense jusqu'à la dernière journée, ça c'est sûr.
Ouais, c'est ce que nous promettaient les experts de l'UEFA et Philippe Bousset avec eux. Donc voilà, on avait finalement raison de les croire au plus compte, parce qu'on sent qu'il y a du suspense à tous les niveaux, parce que
non,
jusqu'à la fin, il y en aura.
Et on n'a pas évoqué Brest, mais on aurait pu évoquer Brest, évidemment.
Oui, parce que ça a été évoqué hier. Bien sûr qu'on n'oublie pas les Brestois, extraordinaires surprises qui découvrent cette compétition, comme d'autres, sauf que les Brestois, eux, sont pour l'instant 11e de ce classement.
Et vont se qualifier.
Et devraient se qualifier, oui, c'est exactement ça, 11e. Devraient se qualifier au moins pour les barrages.
Une petite remarque, parce que je discutais avec des responsables de l'UEFA. Comme il n'y a pas eu beaucoup de matchs nuls depuis le début, il semblerait que la barre remonte un peu et soit plutôt autour de 9, voire 10 points. Donc attention quand même, non pas pour Brest ou autre, mais attention pour ceux qui sont à 4 points aujourd'hui ou à 6 points. Il va falloir gagner 2 matchs.
Comme Paris et le Real.
Il va falloir gagner 2 matchs pour se qualifier. On pensait que ce serait 8 points la barre, qu'à 8 points on serait en barrage. Ce ne sera sûrement pas le cas. Il faudra 9 ou 10.
Où on en sera juste avant Noël. Rendez-vous dans 15 jours pour la 6e journée. Les deux autres, je vous le rappelle, la seconde quinzaine de janvier. Can't touch this.
Can't touch this. Sorry to go off topic.
Désolé d'être hors sujet, mais vous avez des coupures sur le visage.
And apparently some others.
Ouais, c'est avec mes doigts.
My nail.
Mes ongles, je veux me faire du mal.
I wanna hurt myself.
Allez, bonne soirée.
Good night.
It'll be okay.
Can't touch this. Can't touch this. Musicalement, c'est bien, hein, Laurent Salerno.
C'est agréable. Dr. Dre, notamment, tout à l'heure.
On boîte après. Pep griffé, Pep dépité, Pep défiguré mardi soir après un 6e match des Citizens sans victoire et ce 3-3 face au Feyenoord Rotterdam après avoir mené 3-0. Je voulais me faire mal, dit-il. Ouais. Il s'est excusé après. Mais enfin, quand même, oui, on en est là, quoi. Le mec se griffe, s'éclate le nez.
Non, c'est pour ça, il l'a très vite le lendemain matin.
Il va dans des clubs un peu particuliers, là-bas, City, quoi, ça se passe.
Non. Enfin, ça priori, non. Non, mais il s'est excusé de manière très sérieuse le lendemain parce que, évidemment, on parle parfois de certaines personnes qui se scarifient. Là, on est sur une autre thématique qui est très importante, évidemment. Et lui, comme le club, ils ont fait un communiqué très clair en donnant aussi des contacts à ces jeunes qui parfois peuvent aller dans ce sens-là. Donc, il a voulu tout de suite tempérer les choses en disant que c'était très particulier, j'étais dans un moment de stress. Mais voilà, après, on peut comprendre la pression qu'il peut subir et qu'il a subi surtout sur cette rencontre-là, évidemment.
La pression, justement, de tous ces entraîneurs, je voulais qu'on en dise quelques mots, cette charge mentale, Klopp, quand il arrête avec Liverpool, il est au bout du rouleau aussi psychologiquement. Il dit, moi j'arrête pendant au moins un an. Carlo Ancelotti, il est expérimenté, il a quand même une tête patibulaire ou presque ces derniers jours. voilà, dans les titres, je disais, est-ce que c'est nouveau ou pas? Je ne sais pas, on en parlait peut-être moins, mais là quand même, oui, c'est quand même nouveau cette pression sur... accentué sur les entraîneurs.
Il y a beaucoup d'entraîneurs internationaux qui font des années sabbatiques et qui, quand ils se font virer d'un club, et finalement, ils ne cherchent pas immédiatement à rebondir et se disent « mais il faut que je récupère un peu, c'est trop dur mentalement de repartir tout de suite au combat ». Voilà, il y a aussi beaucoup plus que par le passé d'éléments à maîtriser, à contrôler quand on est un entraîneur aujourd'hui. Il y a tout le domaine technique, mais il n'y a pas que ça. Il y a un staff qui est monumental, il y a des enjeux qui sont colossaux. Donc c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'on les sent. Et quand nous on est au bord,
l'obligation des résultats quand de plus en plus rapide.
Quand nous on est au bord d'un terrain, qu'on est dans des arrêts de jeu, que ben on a un niveau d'émotion de sensations extrêmement fortes, et on peut imaginer celui qui est l'entraîneur et qui est concerné directement par ce qui se passe, ça doit être encore plus terrible.
Oui, je crois en plus qu'il s'est senti obligés à les garder pour eux. Et ça fait quoi ? 3 ans qu'on parle des santé mentale des ces sportifs, mais on n'a jamais parlé des entraîneurs, et je crois qu'ils se sentent même pas autorisés, entre guillemets, je ne parle pas du club, mais autorisés au niveau de la société, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler de ces genres et des choses, et la pression qu'ils subissent, c'est monumental. On a Pep Guardiola, mais tu parlais aussi des Ancelotti, la réponse qu'il a donnée l'autre jour quand il était... Il maîtrise toujours les conférences de presse et cette fois-là, il ne pouvait plus. On l'a demandé pourquoi il n'avait pas changé Vinicius qui finalement était blessé. Il a sorti les CV, il a dit j'entraînais 1300 matchs, qui tuait pour venir me dire. C'était un peu à la Luis Enrique. Et Luis Enrique, même lui, au-delà...
Il n'a pas le même palmarès.
Ouais. Oui, mais bon, je dis au-delà, on a tous bien compris quand il disait je suis prêt à gagner un peu moins. Mais surtout, il y avait une autre phrase. Quand il parlait, j'ai dit surtout après les matchs. Parce que je suis tellement épuisé que venir parler 15 minutes avec la presse.
Voilà, c'est surtout parce qu'il n'est pas des journalistes.
Il est différent, oui, c'est pas moi qui va. Mais j'ai dit surtout ça, qu'il s'était obligé, entre guillemets, à le garder pour eux. Personne ne leur posait des questions sur sa situation. Quand on a commencé, ça fait trop peu parler de la santé mentale des sportifs, mais pas des entraîneurs. Je ne sais pas si ça va ouvrir la porte à un autre débat, mais évidemment, ils ont la même pression, voire plus, à cause des résultats que certains joueurs.
Je vous sens dubitatif, Philippe.
Non. Pourquoi dubitatif?
Non, je voulais regarder Manu, je dire oui, bon...
Non. De fait, évidemment, les entraîneurs, c'est de plus en plus difficile. Le poste est de plus en plus difficile. Il y a à la fois de plus en plus de pression. Vous vous rendez compte que Guardiola, qui est bon, il n'y a pas un palmarès comparable à lui. il vient de gagner 5 championnats sur 6, je me trompe. Oui, bon.
Il quadruple le tenant du titre.
Oui, il a gagné aussi une Ligue de Champions, pas ça. Bon, enfin, c'est un détail. il pourrait être assez distant et un peu relax quoi, par rapport à tout ça, en se disant bon, c'est un mauvais passage, ça peut arriver. Et le mec, il se scarifie littéralement. C'est dire qu'effectivement, il y a une pression considérable dans ce métier. Étienne a dit à juste raison que maintenant, derrière vous, vous avez une équipe de 7, 8, 9, 10 techniciens autour de vous qui dépendent de vous. C'est-à-dire que si vous êtes viré, ils sont tous virés avec vous, pour la plupart. Bon, il y a maintenant, vous êtes un chef d'entreprise quand vous êtes entraîneur, c'est de plus en plus dur.
D'où la pression. Merci messieurs d'avoir débattu sur cette Ligue des Champions et sur cette pression autour des entraîneurs. On aura l'occasion d'en reparler. On n'oublie pas le retour de la dame demain pour le Café des Sports. Et qui dit Café des Sports dit carton. N'oubliez donc pas de nous adresser vos cartons sur le Facebook de l'émission ou sur ce numéro WhatsApp. Je vais me faire engueuler. 33 6 82 82 93 25.